Genèse chapitre 2, on avait regardé la dernière fois le repos de Dieu, notre repos à nous. Et on va regarder un petit peu la suite aujourd'hui, ce beau texte. Et on va, je l'espère, apprendre plein de choses intéressantes encore ce dimanche. Alors, on va lire jusqu'à la fin du chapitre. Est-ce qu'on aurait un lecteur pour faire jusqu'à la fin du chapitre? Quelqu'un qui a envie de lire la Bible? Guy, tu veux nous lire? À partir du verset 4 jusqu'au verset 25.
Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fut la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le Zélion et la pierre d'Onyx. Le nom du second fleuve est Gibbon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush, c'est-à-dire l'Éthiopie d'aujourd'hui. Le nom du territoire et Hidekel. Ce mot Hidekel signifiait aujourd'hui le fleuve, le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie, l'Irak actuel. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et après que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et il n'en avait point honte.
Merci pour la lecture, bien claire. Alors, vous avez remarqué peut-être, on avait vu Genèse chapitre 1, et puis il y avait des jours de la création qui se succédaient. Et puis là, il semble qu'on a un deuxième récit qui est un peu comme s'il se contredisait avec le précédent, puisqu'on voit d'abord l'homme, après on voit les plantes, après on voit les animaux qui arrivent. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi cela ? Alors, Dieu n'est pas un Dieu qui se contredit, bien sûr. Alors, on va essayer de chercher l'explication ailleurs. Est-ce qu'il vous est arrivé, quand vous voyez un beau paysage, de chercher à le voir selon différents points de vue ? Et ou lorsqu'il y a une belle construction, ben on se déplace, on fait le tour, parce qu'on n'arrive pas à voir l'ensemble en un seul coup d'œil comme ça. Il faut se déplacer, il faut aller à plusieurs endroits. Et c'est un petit peu l'approche que je vous propose ce matin pour notre texte. À la fin de la création, au chapitre 1, on avait longuement passé du temps sur cette affirmation. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. C'était tout à fait à la fin du sixième jour. On pourrait penser, je ne sais pas pourquoi, s'il le fait ça tout à fait à la fin, à la fin, comme Dieu, il avait tout fait, alors il s'est dit, je vais faire l'homme et la femme à mon image, pour terminer comme ça. Ce deuxième texte nous donne une approche différente et ne nous permet pas de voir les choses de cette façon-là. On voit ici que l'homme était dans la pensée de Dieu dès le départ. Et en quelque sorte, les plantes sont faites pour nourrir l'homme, les animaux sont faits pour être là, pour lui tenir compagnie, pour lui donner de l'activité. Tout est centré sur l'homme, alors que le premier texte n'était pas comme ça. Je vais prendre une image lorsqu'il y a dans la famille papa et une maman qui vont avoir un enfant. Ils savent que l'enfant va arriver. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils préparent les choses pour que quand l'enfant est là, tout soit prêt. On n'entend pas que l'enfant soit là pour lui trouver une chambre dans la maison, une pièce dans la maison. On n'entend pas qu'il soit là pour avoir des draps, avoir tout ce qu'il faut pour le recevoir. On prépare un petit peu ces choses-là à l'avance et tout est calculé pour recevoir l'enfant. Et c'est un petit peu ces deux approches que nous pouvons voir. À la fois Dieu qui voit l'homme et qui prépare tout ce qu'il fait, tout ce qu'il faut. Tout est centré sur l'homme dans notre texte. Tout est autour de l'homme. Et dans le texte précédent, c'était l'inverse. L'homme arrivait à la fin. Et donc nous pouvons avoir ces deux images. C'est ainsi que je vous propose de résoudre un petit peu la contradiction apparente qu'il peut y avoir entre ces deux textes. Nous allons rentrer un petit peu dans le détail et voir trois points ce matin ensemble. On ne va pas aller jusqu'à la fin du chapitre, parce que ça ferait trop de choses à dire, mais on va voir trois choses. On va s'arrêter au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. On rentre un petit peu dans les détails par rapport à ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent. Vous savez, quand vous avez ceux qui maîtrisent l'ordinateur, vous avez des fois des liens hypertextes. Et puis vous avez le verset ici, Dieu créa l'homme à son image. Vous double-cliquez dessus et puis pouf, vous avez le chapitre 2 qui s'ouvre et vous avez plus d'informations. Et donc là, on a des informations. Comment Dieu a fait l'homme? Et c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il forma l'homme. Le mot ici formé, c'est le mot façonné. C'est le même mot qui désigne le potier, celui qui façonne. Dans ce travail de façonnage, il y a une question de durée, de temps, de soin. D'autant plus que la matière qu'il est utilisée, c'est de la poussière. Alors vous savez ce que c'est la poussière, hein? Ça n'a pas de consistance, c'est des choses qui passent entre les doigts. Ça n'a pas de valeur, hein? On la pourchasse dans notre maison. On fait tout pour pas qu'il y ait de la poussière, c'est facilement transporté par le vent. Voilà la poussière et voilà la matière qu'a utilisé Dieu pour nous façonner. Nous sommes donc faits de poussière, mais en quelque sorte façonnés avec soin. Dieu n'a pas fait... Quand il a créé l'homme, il n'a pas fait tout. Voilà, c'est un homme. Il y a cette image derrière ce mot façonné et la matière qui a été prise de prendre du temps, de travailler, d'avoir du soin. C'est un enrichissement de la pensée de Dieu que nous avons ici. On peut opposer cela au récit de l'idole qu'avaient fait les Israélites quand Moïse était monté sur la montagne. Ils avaient rassemblé leur or et Aaron dit: j'ai jeté l'or dans le feu pour le faire fondre et il est sorti un veau. Là on a une image complètement opposée, d'un côté une idole qui sort par hasard d'un feu quand le feu est éteint. Et de notre côté, un homme qui a été façonné par Dieu, façonné à l'image de Dieu. Il y a à Villeneuve une place là au nord de la ville qui s'appelle le Sol de la Dîme et la municipalité a voulu faire une statue là pour décorer cette place, pour lui donner un sens. Et il a commandé la statue à José Ballester, il faudrait dire, qui est un immigré espagnol, un grand, très grand sculpteur qui est très connu. Peut-être vous avez entendu parler de lui. C'est lui qui a fait sur le Guirodé, la statue qui pousse la pierre, là. En tout cas, c'est un artiste reconnu mondialement. Et quand il était interviewé, là, quand il faisait... Il taillait sa statue. Il disait, j'ai regardé, il disait, il faut de la patience. Il faut beaucoup de patience pour faire une statue. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Et il disait également, on ne devient pas un artiste comme ça, là, comme quelque chose qui nous tomberait du ciel. Non, il y a beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'expérience. Lui, il sculptait depuis l'âge de 10 ans. Donc nous avons cette idée et on verra un petit peu plus loin dans notre texte la municipalité pour recevoir cette œuvre d'art. Il a fait une grande statue qui représente un berger en train de porter un agneau. C'est le Sol de la Dîme, c'est le berger qui apporte l'agneau pour payer son impôt. Et c'est une grande bloc de marbre calcaire qu'il a pris au nord du Lot, là, à Carénac. Et à partir de ce bloc de calcaire qui n'avait à la base aucune valeur, rien, il a fait une magnifique statue qui, elle, maintenant, a de la valeur. Et voilà l'image que nous avons ici en ce qui nous concerne. On est fait de poussière, mais Dieu a donné à cette poussière une valeur très grande à son travail, à ce que nous sommes, à l'homme, à la femme. Nous avons une très grande valeur entre les mains de Dieu. Il nous a façonné à son image. Alors c'est pas une petite chose. On voit également dans notre verset, il souffla dans ses narines un souffle de la vie et l'homme devint une âme vivante. Alors la vie, dans ce passage, on voit bien que c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui insuffle la vie. C'est de lui que nous, toute création, on reçoit la vie. Voilà une autre chose que nous retenons, que nous avons dans ce texte, dans ce verset, la première chose. Donc le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre de Dieu. À la fois, nous sommes d'une grande valeur, nous-mêmes, nos voisins, la personne qui est assise à côté de nous ce matin a une grande valeur. Et à la fois, nous sommes quelque part très fragiles, faits de poussière. Nous sommes, on pourrait dire rien, un peu de poussière. Et Dieu nous donne la vie. La vie ne nous appartient pas, c'est Dieu qui l'a donnée. Il y a un lien de dépendance étroit avec Dieu qui est souligné dans ce texte ici. Un lien de dépendance étroit avec Dieu. Avançons un petit peu plus loin, les versets 8 à 15. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et il se divisait en quatre bras. On a lu les différents bras, les quatre qui formaient quatre fleuves. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Alors, le jardin d'Éden, on dit le paradis des arbres, agréables à voir, une très grande variété d'arbres, avec des fruits qui sont bons à manger, ce fleuve qui sort de l'eau, qui sort de terre et qui se divise, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on peut connaître habituellement, mais là il y avait de l'eau qui sortait de terre. Ça faisait ça, ça partait vers quatre bras pour faire quatre grands fleuves. Et vous avez remarqué qu'on ne peut plus maintenant localiser cet endroit. La géographie de la Terre a été complètement transformée. Il ne reste que deux des fleuves sur les quatre qui sont cités. Il est question de l'or également. L'or de ce pays, on a lu l'or du pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. L'or de ce pays est pur. C'est le même mot que bon. C'est un or qui est bon. Dans le paradis de Dieu, même l'or est une bonne chose. Aujourd'hui, l'or attire toutes sortes de convoitises. Elle est mise sur le marché, son cours monte, son cours baisse. Elle fait l'objet de spéculations. Elle fait l'objet de toutes sortes de convoitises, de tractations. On se la dispute, on veut se l'acquérir. Mais au départ, dans la création de Dieu, l'or était une bonne chose. L'or était pur et c'était bon. C'était bon. Nous sommes dans le paradis de Dieu. Et on voit dans ce jardin que Dieu fait, et voilà, il place l'homme. À Villeneuve, ils ont fait tout un truc autour de la statue pour mettre la statue bien en évidence avec de l'herbe, avec tout ce qu'il fallait. Et son œuvre d'art, Dieu l'a placée dans un beau jardin. Qu'est-ce qu'on va retenir pour nous ce matin de ce petit passage? Dieu a pourvu au jardin pour Adam. Aussi également, il peut pourvoir pour ce dont nous avons besoin aujourd'hui, puisque nous sommes précieux à ses yeux, il va pouvoir à ce dont nous avons besoin. Jean nous a rappelé ça dans la méditation. On a lu également, il le plaça dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Donc Dieu avait prévu que l'homme, Adam, allait se nourrir des fruits du jardin, mais il avait une activité. Il devait cultiver et garder le jardin. Adam allait se nourrir un petit peu du fruit de son activité. C'est encore valable aujourd'hui, ces choses-là. Dieu nous a placés sur la terre pour que nous ayons des activités. Pas pour que nous soyons oisifs, mais pour que nous ayons des activités. C'est ainsi qu'il avait créé Adam, c'est ainsi qu'il avait créé ce jardin, pour que, au milieu de tout ça, ben, Dieu il fait des choses. Et on le voit comme dans le reste du récit, comment il va donner des noms à tous les animaux. On reparlera de ça une autre fois, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Mais Dieu, l'homme, Adam, il a des activités et il se nourrit des fruits de son activité. Et également, on voit ce lien de dépendance qu'il y a avec Dieu. Dieu a pourvu à ce dont Adam avait besoin. C'est notre deuxième passage, le jardin. Une œuvre d'art, un jardin. Et troisièmement, à la suite de notre texte, ce matin, un commandement. L'Éternel, au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras à coup sûr. Alors, pourquoi Dieu a-t-il placé dans ce jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal? S'il n'y avait pas eu d'arbre, s'il n'y avait pas eu de commandement, s'il n'y avait pas eu cette interdiction, ça aurait été quand même plus facile pour l'homme. Parce qu'on connaît un petit peu la suite de l'histoire, comment il va être tenté, comment il va désobéir et comment il va perdre son jardin. Il n'y a pas de réponse qui soit donnée dans ce texte ici. Pourquoi Dieu a placé ce jardin? Pourquoi il a donné un commandement? Dieu ne donne pas d'explication. Alors, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Lui est notre créateur, nous sommes la créature. Ça, c'est quelque chose qui doit être bien clair. Dans notre tête, c'est nous qui sommes dépendants de lui et pas l'inverse. C'est nous qui avons des comptes à lui rendre et pas l'inverse. Il n'a pas de compte à nous rendre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce commandement? On voit que ce commandement, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, il se situe dans le cadre de l'amour de Dieu. Dieu a voulu l'homme, il l'a fait avec soin, il l'a mis dans un beau jardin. Et là, on est dans ce contexte-là. Ce commandement, il est dans ce contexte-là. Ceux parmi nous qui avons élevé et fait grandir des enfants, des fois, les enfants, on leur dit, ne fais pas ça. Et puis, ils demandent des fois, quand ils deviennent un petit peu plus lestes avec leur vocabulaire, pourquoi je ne peux pas faire ça, et pourquoi lui il le fait, moi je ne peux pas. Et non, tu ne peux pas comprendre, je peux t'expliquer, je te demande simplement de ne pas faire ça. Et l'enfant obéit parce que il sait que son papa et sa maman l'aiment, qu'ils prennent soin de lui. Et bon, quelque part il faut faire confiance à papa et à maman. Et donc je pense que c'est dans ce cadre-là. Surtout qu'il faut voir ce commandement qui a fait intrusion. Nos enfants ne comprennent pas tout, mais ils comprennent que nous les aimons. On ne peut pas comprendre pourquoi il y a ce commandement dans ce jardin, mais on peut comprendre que nous avons de la valeur pour Dieu, que Dieu veut prendre soin de nous et qu'il a tout fait pour cela. Et on peut lui faire confiance. On peut avoir la foi. Il y a un commandement. Il est là pour qu'il soit obéi, pour lui obéir. Alors pour conclure, Dieu prouve son amour dans notre texte ici. Il nous a créés avec soin, mais toutefois, nous sommes de la poussière. Nous avons une grande valeur, mais nous ne sommes que poussière. Sans la vie que Dieu nous donne, nous ne sommes plus rien. nous revenons à la poussière, on le sait très bien. Hein. Si ceux qui y a un travail là dans les croque-morts, ils réduisent, ils vont dans les caveaux, là, quand les personnes sont là depuis très très longtemps, ils rassemblent, ils ouvrent les cercueils, ils rassemblent tout ça dans une petite boîte, dans une petite urne qui est déposée dans un coin du caveau, c'est que de la poussière. Et ça donne la place pour, bien sûr, loger ceux qui sont là depuis moins longtemps. Nous sommes que poussière et nous revenons à la poussière. Ces choses-là sont très claires et sont très faciles à retenir pour nous, à comprendre. Dieu pourvoit à nos besoins physiques à travers nos activités. C'est un deuxième enseignement qu'on a vu. Dieu pourvoit à nos besoins à travers les activités que nous allons faire. Et un troisième point, on ne comprend pas toujours le pourquoi des commandements de Dieu, mais notre compréhension est suffisante pour lui obéir. On comprend suffisamment pour comprendre ce qu'il ne veut pas qu'on fasse ou ce qu'il veut qu'on fasse. On ne va pas toujours comprendre pourquoi, mais on va clairement comprendre. Et là, l'homme avait clairement compris ce qu'il devait faire, ce qu'il ne devait pas faire, ce qui lui était autorisé et la chose qui lui était interdite. Dieu prouve son amour dans notre texte. Voilà, on va s'arrêter là au niveau de ce texte. Je voudrais, pour terminer, qu'on prenne en guise de conclusion le psaume 139 et on va lire ensemble le psaume 139 qui nous parle de tout ça par la bouche de David d'une autre façon. Alors, je vous propose qu'on lise un verset dans la salle. On prend un verset l'un après l'autre. Alors, ceux qui aiment bien lire peuvent lire un verset et puis notre lecteur prend la suite, etc. Et puis, on va aller jusqu'à la fin de ce psaume. Alors, tu veux commencer, Alain ? Le verset 1.
Éternel, tu me sondes et tu me connais.
Tu sais quand je m'assois et quand je me lève, longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense.
Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies.
Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement.
Tu me tiens serré par derrière et par devant, et tu as mis ta main sur moi.
Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir.
Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face?
Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, tu vois là. Et si j'implantais les ailes de l'homme pour me réfugier au confond du mer?
Là aussi, ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait.
Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi.
Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière.
Car tu m'as possédé, mes reins, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère.
Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien.
Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre.
quand je m'éveille, quand ma une forme, tes yeux me voient. Et ce ton livre était un tout esprit. Le jour qui m'a été destiné avant qu'aucun tout existe.
Combien de destins, oh Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables.
Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi.
19.
Oh Dieu, si seulement tu faisais mourir les gens mauvais, si tu chassais loin de moi les assassins.
Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis.
Mais je n'ai pas à haine. Éternel, ce qui te reste, je n'ai pas à horreur ce qui s'élève contre toi.
Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis.
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées.
Regardez si je suis sur une navette voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
Merci. On va prier. Seigneur, merci pour ce beau psaume. Merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous apprend les choses qui sont faciles à comprendre mais qu'on oublie si facilement. Merci ce matin de nous rappeler combien nous avons de la valeur pour toi, combien nous sommes le centre de tes préoccupations. Et Seigneur, aide-nous à prendre conscience de cela, à te faire confiance, à marcher dans tes voies. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je vois, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tu es notre Dieu, Seigneur. Bénis-nous ce matin. Merci pour ce que nous sommes. Merci de nous aider à jamais oublier quelle valeur nous avons pour toi. Tu as sacrifié ton Fils sur la croix, Jésus-Christ. On a pris le pain et le vin tout à l'heure. On s'est rappelé combien tu as aimé le monde, combien tu as aimé l'humanité, jusqu'à sacrifier ton propre Fils, jusqu'à te sacrifier toi-même. Merci de cela. Dans le nom de Jésus, garde-nous, bénis nos frères et nos sœurs, bénis notre assemblée. Amen.
Amen.